La répartition mondiale de la production. Commençons par examiner l'évolution de la répartition mondiale de la production, qui est relativement bien connue, au moins depuis le début du XIXe siècle. Pour les périodes plus anciennes, les estimations sont plus approximatives, mais on peut en retracer les grandes lignes grâce notamment aux travaux historiques de Madison, d'autant plus que l'évolution d'ensemble est relativement simple. Entre 1900 et 1980, l'Europe et l'Amérique ont concentré entre 70% et 80% de la production mondiale de biens et services, signe d'une domination économique sans partage sur le reste du monde. Cette part décline régulièrement depuis les années 1970-1980. Elle est retombée à tout juste 50% au début des années 2010, environ un quart pour chaque continent, soit approximativement le niveau de 1860. Selon toute vraisemblance, elle devrait continuer à baisser et pourrait retrouver au cours du XXIe siècle un niveau de l'ordre de 20-30%. Ce niveau était déjà en vigueur jusqu'au début du XIXe siècle et serait plus conforme à ce qu'a toujours été le poids de l'Europe et de l'Amérique dans la population mondiale. Voir graphique 1.1 et 1.2. Autrement dit, l'avance prise par l'Europe et l'Amérique au cours de la révolution industrielle leur a longtemps permis de peser entre 2 et 3 fois plus lourd dans la production que leur poids dans la population, simplement parce que leur production par habitant était entre 2 et 3 fois plus élevée que la moyenne mondiale. Tout laisse à penser que cette phase de divergence des productions par habitant au niveau mondial est terminée et que nous sommes entrés dans une phase de convergence. Ce phénomène de rattrapage est toutefois très loin d'être terminé. Il serait bien prématuré d'en annoncer le terme avec précision, d'autant plus que des retournements économiques ou politiques en Chine ou ailleurs ne peuvent évidemment pas être exclus. Le PIB par habitant en Asie-Afrique est passé de 37% de la moyenne mondiale en 1950 à 61% en 2012, mais il reste encore loin des 225% de l'Europe et de l'Amérique en 2012. Voir graphique 1.3. Des blocs continentaux aux blocs régionaux. Ce schéma général est bien connu, mais il mérite d'être précisé et affiné sur plusieurs points. Tout d'abord, ce regroupement de l'Europe et de l'Amérique en un seul bloc occidental a le mérite de simplifier les représentations, mais il est largement artificiel. En particulier, le poids économique de l'Europe a atteint son zénith à la veille de la Première Guerre mondiale, près de 50% du PIB mondial, et n'a cessé de décliner depuis, alors que celui de l'Amérique a atteint son sommet dans les années 1950-1960, près de 40% du PIB mondial. Par ailleurs, chacun des deux continents peut se décomposer en deux sous-ensembles très inégaux, un cœur hyper développé et une périphérie moyennement développée. De façon générale, il est plus justifié d'analyser l'inégalité mondiale en termes de blocs régionaux plutôt que continentaux. Cela apparaît clairement lorsqu'on consulte le tableau 1.1 dans lequel nous avons indiqué la répartition du PIB mondial en 2012. Retenir tous ces chiffres n'aurait évidemment aucun intérêt, mais il n'est pas inutile de se familiariser avec les principaux ordres de grandeur. Au niveau mondial, la population avoisine les 7 milliards d'habitants en 2012, et le PIB dépasse légèrement les 70 milliards d'euros, d'où un PIB par habitant presque exactement égal à 10 000 euros. Si l'on retire 10% au titre de la dépréciation du capital, et si l'on divise par 12, on constate que ce chiffre est équivalent à un revenu mensuel moyen de 760 euros par habitant, ce qui est peut-être plus parlant. Autrement dit, si la production mondiale et les revenus qui en sont issus étaient répartis de façon parfaitement égalitaire, alors chaque habitant de la planète disposerait d'un revenu de l'ordre de 760 euros par mois. L'Europe est peuplée de 740 millions d'habitants, dont environ 540 millions pour l'Union européenne, dont le PIB par habitant dépasse les 27 000 euros, et 200 millions pour le bloc Russie-Ukraine, dont le PIB par habitant est d'environ 15 000 euros, à peine 50% au-dessus de la moyenne mondiale. L'Union européenne elle-même est relativement hétérogène, puisqu'elle comprend d'une part 410 millions d'habitants pour l'ex-Europe de l'Ouest, dont les trois quarts pour les cinq pays les plus peuplés, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, avec un PIB moyen atteignant les 31 000 euros, et d'autre part les 130 millions d'habitants pour l'ex-Europe de l'Est, avec un PIB moyen de l'ordre de 16 000 euros, peu différent du bloc Russie-Ukraine. Pour simplifier l'exposition, nous incluons dans l'Union européenne les petits pays européens, Suisse, Norvège, Serbie, etc., entourés par l'Union européenne, mais non encore membres de l'UE. La population de l'UE, stricto sensu, est en 2012 de 510 millions et non de 540 millions. De même, la Biélorussie et la Moldavie ont été incluses dans le bloc Russie-Ukraine. La Turquie, le Caucase et l'Asie centrale ont été inclus dans l'Asie. L'Amérique est également divisée en deux ensembles bien distincts et encore plus inégaux que le centre et la périphérie européens. Le bloc États-Unis-Canada, avec 350 millions d'habitants et 40 000 euros de PIB par habitant, et l'Amérique latine avec 600 millions d'habitants et 10 000 euros de PIB par habitant, soit très exactement la moyenne mondiale. L'Afrique subsaharienne, avec 900 millions d'habitants et un PIB de seulement 1 800 milliards d'euros, moins que le PIB français, 2 000 milliards, est la zone économique la plus pauvre du monde, avec 2 000 euros de PIB par habitant. L'Inde est à peine au-dessus, l'Afrique du Nord plus nettement, et la Chine encore plus, avec près de 8 000 euros de PIB par habitant. La Chine de 2012 n'est pas très loin de la moyenne mondiale. Le Japon a un PIB par habitant équivalent à celui des pays européens les plus riches, environ 30 000 euros, mais sa population est si minoritaire en Asie qu'il n'influe guère sur la moyenne continentale asiatique, très proche de celle de la Chine. Il en va de même pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à peine 30 millions d'habitants, soit moins de 0,5% de la population mondiale, pour environ 30 000 euros de PIB par habitant, que pour simplifier, nous avons incluse dans l'Asie. L'inégalité mondiale, de 150 euros par mois à 3 000 euros par mois. Pour résumer, l'inégalité au niveau mondial oppose des pays où le revenu moyen par habitant est de l'ordre de 150-250 euros par mois, l'Afrique subsaharienne, l'Inde, à des pays où le revenu par habitant atteint 2 500-3 000 euros par mois, Europe occidentale, Amérique du Nord, le Japon, soit entre 10 et 20 fois plus. La moyenne mondiale, qui correspond approximativement au niveau de la Chine, se situe autour de 600-800 euros par mois. Ces ordres de grandeur sont significatifs et méritent d'être retenus. Encore faut-il préciser qu'il comporte une marge d'erreur non négligeable. Il est toujours beaucoup plus difficile de mesurer les inégalités entre pays, ou d'ailleurs entre époques différentes, qu'à l'intérieur d'une société donnée. Par exemple, l'inégalité mondiale serait sensiblement plus forte si l'on utilisait les taux de change courants et non les parités de pouvoir d'achat comme nous l'avons fait jusqu'ici. Pour présenter ces deux notions, considérons d'abord le cas du taux de change euro-dollar. En 2012, un euro valait en moyenne 1,30 $ sur le marché d'échange. Un Européen, disposant de 1 000 euros de revenus, peut aller à sa banque et obtenir 1 300 $. S'il part dépenser cet argent aux États-Unis, son pouvoir d'achat sera effectivement 2 300 $. Mais d'après les enquêtes officielles dites ICP, les prix sont en moyenne plus élevés en zone euro qu'aux États-Unis, de près de 10%. Si bien que le pouvoir d'achat de cet Européen, s'il dépense son argent en Europe, est plus proche d'un revenu américain de 1 200 $. On dit alors que la parité de pouvoir d'achat est de 1,20 $ par euro. Et c'est cette parité que nous avons utilisée pour convertir le PIB américain en euros dans le tableau 1.1. Nous avons fait de même pour les autres pays. De cette façon, on compare les différents PIB sur la base du pouvoir d'achat qu'ils offrent véritablement à leurs habitants, qui le plus souvent dépensent leurs revenus chez eux et non à l'étranger. L'autre avantage d'utiliser les parités de pouvoir d'achat est qu'elles sont en principe plus stables que les taux de change courants. En effet, ces derniers reflètent non seulement l'état de l'offre et de la demande pour les biens et services échangés par les différents pays, mais également les soubresauts des stratégies de placement des investisseurs internationaux, les anticipations changeantes sur la stabilité politique et financière de tel ou tel pays, sans parler de l'évolution parfois chaotique de la politique monétaire menée ici ou là. Les taux de change courants peuvent donc être extrêmement volatiles, comme l'illustrent les très fortes fluctuations du dollar au cours des dernières décennies. Le taux de change est passé de plus de 1,30 dollars par euro dans les années 1990 à moins de 0,90 dollars en 2001, avant de remonter en flèche et d'avoisiner 1,50 dollars en 2008, puis de redescendre vers 1,30 dollars en 2012. Pendant ce temps, la parité de pouvoir d'achat augmentait paisiblement, d'environ 1 dollar par euro au début des années 1990 à environ 1,20 dollar par euro au début des années 2010. Voir graphique 1.4. Cependant, quels que soient les efforts des organisations internationales impliquées dans les enquêtes ICP, force est de reconnaître que ces parités de pouvoir d'achat demeurent relativement incertaines, avec des marges d'erreur sans doute de l'ordre de 10%, voire un peu plus, y compris entre des pays de niveau de développement comparable. Par exemple, dans la dernière enquête disponible, on constate que certains prix sont effectivement plus élevés en Europe, comme l'énergie, le logement, les hôtels et restaurants, mais que d'autres y sont nettement plus faibles, comme la santé et l'éducation. En principe, les estimations officielles pondèrent ces différents prix en fonction du poids des divers biens et services dans le budget moyen de chaque pays, mais il est bien évident que de tels calculs ne peuvent être parfaitement précis, d'autant plus que les différences de qualité sont très difficiles à mesurer pour de nombreux services. En tout état de cause, il est important de souligner que chacun de ces indices de prix mesure différents aspects de la réalité sociale. Le prix de l'énergie mesure le pouvoir d'achat en énergie, plus fort aux États-Unis, et celui de la santé, le pouvoir d'achat en santé, plus fort en Europe. La réalité de l'inégalité entre pays est multidimensionnelle, et il serait illusoire de prétendre tout résumer avec un unique indicateur monétaire permettant d'aboutir à un classement univoque, surtout entre des pays ayant des revenus moyens relativement proches. Dans les pays les plus pauvres, les corrections introduites par les parités de pouvoir d'achat sont très fortes. En Afrique comme en Asie, les prix sont de l'ordre de 2 fois plus bas que dans les pays riches, si bien que le PIB est environ 2 fois plus élevé lorsqu'on passe du taux de change courant à la parité de pouvoir d'achat. Cela provient essentiellement des prix plus bas des services et des biens non échangeables internationalement, plus faciles à produire dans les pays pauvres, car relativement plus intensifs en travail peu qualifié, facteur relativement plus abondant dans les pays moins développés, et moins en travail qualifié et en capital, relativement moins abondant. Généralement, la correction est d'autant plus élevée que le pays est pauvre. En 2012, le coefficient correcteur est de 1,6 en Chine et de 2,5 en Inde. Actuellement, l'euro vaut 8 yuan chinois au taux de change courant et 5 yuan en parité de pouvoir d'achat. L'écart se resserre à mesure que la Chine se développe et réévalue le yuan. Voir graphique 1.5. Certains auteurs, dont Madison, considèrent cependant que l'écart est moins resserré qu'il n'y paraît et que les statistiques officielles sous-estiment le PIB chinois. Nous avons choisi de reprendre les estimations officielles pour la période récente, mais il est tout à fait possible que les prochaines enquêtes ICP conduisent à réévaluer le PIB chinois. Ces incertitudes sur les taux de change et les parités de pouvoir d'achat doivent inciter à traiter les revenus moyens indiqués plus haut, 150-250 euros par mois pour les pays les plus pauvres, 600-800 euros pour les pays moyens, 2500-3000 euros pour les pays les plus riches, comme des ordres de grandeur et non comme des certitudes mathématiques. Par exemple, la part des pays riches, Union européenne, États-Unis, Canada, Japon, atteint 46% en 2012 si l'on place en parité de pouvoir d'achat contre 57% en taux de change courant. La vérité est probablement entre les deux chiffres et sans doute plus proche du premier, mais dans tous les cas, cela ne remet pas en cause les ordres de grandeur, ni le fait que la part des pays riches diminue régulièrement depuis les années 1970-1980. Quelle que soit la mesure utilisée, le monde semble être bel et bien entré dans une phase de convergence entre pays riches et pauvres.